précise. Mais effectivement, c'est une page, une immense page, une très belle page du foot français qui se tourne avec la retraite internationale de l'homme aux 137 sélections et 44 buts en bleu. Antoine Griezmann.
Radio G. 101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Et c'est parti pour une nouvelle semaine d'agitation locale et culturelle sur le 101.5 FM de Radio G à l'écoute de Topette. Tous les soirs, 18h10, 19h, c'est écrit dans le titre tout simplement. Petit programme quand même de la semaine qui s'ouvre devant nous. Alors je tais pour l'instant nos sujets de la soirée, mais demain nous serons de retour de nouveau avec le Shabada qui a fêté ses 30 ans très récemment. Mercredi, on va prendre un café avec Café Chololo. Et jeudi, on va enfin recevoir Anne et Timothée qui vont nous parler de Format, leur résidence artistique. Je vois déjà Raphaël qui hoche la tête. Ça lui parle bien évidemment. Ce soir, ça va vous parler aussi. On va reparler un peu des Jeux Olympiques qui vous manquent très certainement. On va recevoir Luc, Thierry et Léa qui étaient secouristes, qui sont secouristes à la protection civile de Maine-et-Loire et qui ont été bénévoles à cette occasion pour les athlètes et pour les publics afin d'assurer les éventuels premiers secours et puis assurer tout simplement la sécurité des nombreuses personnes qui étaient du côté de Paris mais partout en France et même jusqu'à, c'était Haïti je crois. Ensuite, on va bouger avec le festival du rock et des vaches à Andar, c'est le 12 octobre. Alors Frédéric et Bruno vont être avec nous pour en parler, président de l'association et puis Bruno, membre fondateur voilà, du festival du rock et des vaches du côté d'Andar et puis on va bien évidemment parler du rock et des veaux qui aura lieu le lendemain. Bonsoir Raphaël, sans transition aucune, empare-toi d'un micro puisqu'il y aura l'agenda culturel tout à l'heure avec toi, ça va ?
Oui, ça va très bien.
Alors, tease-nous un petit peu les dates qui vont arriver là, de quoi on va parler, pas mal.
Alors, il y aura beaucoup de choses à partir du 4-5 octobre, soyez au rendez-vous tout à l'heure, je vais vous donner plein d'informations.
Et voilà, ça c'est du teasing autour de 18h30, Topette, c'est parti, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Topette, Radio G, ou tout simplement le compte Instagram de Radio G.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, un point sur l'actu dans le Maine-et-Loire avec toi, Yaël. Bonsoir Yaël.
Bonsoir.
Des inquiétudes concernant la sécurité de la police municipale à Angers.
Plus d'un mois après le meurtre survenu en plein cœur du centre-ville d'Angers, la CFDT dénonce la nécessité de réarmement de la police municipale de nuit. Pour rappel, un homme de 32 ans avait été tué par arme à feu dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 août dernier. Ce drame était intervenu presque deux ans après le triple homicide Cœur de Maine. Quelques jours plus tard, le syndicat s'adressait au maire d'Angers pour alerter sur l'urgence de rééquipement de la brigade de nuit. Il a notamment affirmé, je cite, « nos collègues de la brigade de la nuit ». De la police municipale, une fois de plus, étaient primo intervenants avec les seuls équipements dont ils sont dotés. Depuis, sans réponse concrète, la CFDT adresse une relance aux élus et espère une prise en charge de cette demande.
Des déflagrations maintenant qui ont été entendues près du tribunal, toujours à Angers.
Oui, effectivement, ce vendredi 27 septembre, pas moins d'une quarantaine d'agriculteurs se sont réunis devant le tribunal d'Angers et n'ont pas hésité à manifester leur présence. Ils sont venus soutenir leurs collègues convoqués après le dépôt d'une plainte pour entrave à la circulation par le ministère public. Les manifestants s'exposaient à une amende de 200 euros après le blocage de l'autoroute A11 à Durtal et Sèche-sur-Loire en janvier et février dernier. Une amende vivement contestée par Médéric Sauvage, l'un des prévenus et entrepreneur des travaux agricoles, qui indiquait, je cite, « On s'oppose à l'amende, on ne comprend pas pourquoi on nous le reproche, alors que tout était déclaré et ce que nous faisions, c'était dans le cadre d'un blocage au nom du syndicat. »
Côté athlétisme maintenant, Yaël, une victoire à domicile.
Et oui, c'est bien une médaille d'or qu'est venu décrocher Alexis Grano à l'occasion du premier semi-marathon de Chalon-sur-Loire qui s'est déroulé ce samedi. L'athlète s'est positionné sur la plus haute marche du podium. Une victoire d'autant plus symbolique que le sportif connaît bien le secteur. Il a inscrit son nom ainsi dans le palmarès de cette première édition.
Merci beaucoup Yaël pour ce point sur les actus à Angers dans le Maine-et-Loire. Et justement, tu parlais d'athlétisme, on va remonter sur la Seine, le fleuve ce soir dans Topette et on repart du côté des Jeux Olympiques de Paris 2024.
l'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir nos invités de Topette. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Bonsoir Léa.
Bonsoir.
Et bonsoir Luc, très près du micro.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes tous trois bénévoles secouristes à la protection civile de Maine-et-Loire, 49. Et vous étiez du coup du côté de Paris, mais pas que. Je crois que Léa, tu étais du côté de Nice, puisque vous avez participé à assurer la sécurité et les éventuels premiers secours lors de cet événement incroyable. L'occasion de revenir ensemble sur votre expérience, sur ce qui va en rester, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur votre parcours, éventuellement, votre engagement au sein de la protection civile. Mais avant tout ça, Thierry, je me retourne vers toi, Thierry Durand. Toi, tu es secouriste administrateur et membre de la commission des adhérents et chef de poste, un sacré intitulé, et Luc Allard, président secouriste et aussi chef de poste. On va peut-être ensemble recontextualiser ce qu'est la protection civile de Maine-et-Loire. Luc, pour les personnes qui ont l'habitude de voir les camions, vos tenues, mais qui peut-être oublient, ne savent pas précisément, qu'est-ce que vous faites, Luc ?
Oui, donc nous sommes une association agréée de sécurité civile. Donc on a plusieurs missions, mission secourir, aider et former. Donc là dans le cadre des Jeux Olympiques, on a intervenu dans le cadre de secourir et intervenir auprès de différents dispositifs dans le cadre des Jeux Olympiques.
Léa, toi tu es bénévole depuis combien de temps au sein de la protection civile ?
Eh bien, je suis entrée à 18 ans en décembre 2018.
Donc ça fait 6 ans si je calcule rapidement et si
ouais,
c'est juste. Thierry, toi tu es bénévole depuis combien de temps au sein de la protection civile ?
Ça doit faire une dizaine d'années à peu près.
Alors tout à l'heure on aura l'occasion de reparler de vos engagements. D'une manière générale, Luc, quel type d'événement est couvert par la protection civile ? Comment ça marche ? Parce que c'est une association, c'est pas une entreprise de secours comme la sécurité par exemple en amont des événements. Vous couvrez quel type d'événement sur le territoire ?
Bah sur le territoire, on couvre différents événements, notamment les matchs du SCO. Également, on intervient sur des festivals comme le festival de Trélazé. Et puis également sur des festivals ou sur le parc exposition aussi. Et puis tous les motocross également. On assure la protection des motocross. Et puis des soirées festives. Comme le Record Vache tout à l'heure là, des différents festivals auxquels on est demandé.
Alors qu'on fasse bien la distinction pour le grand public, nos auditeurs auditrices, parce qu'on pense aussi à la Croix-Rouge qui a peut-être des missions assez similaires. Est-ce qu'il y a une complémentarité, coordination avec les autres assos du secteur du territoire ?
Alors les demandes sont telles que chacun peut avoir une activité dans le cadre des secours, donc ça pose pas de souci. Par contre, on peut aussi faire de l'interassociation par différentes situations, notamment quand il y a par exemple des rêves parties, comme on a subi au niveau du mois de mai dernier. En fait, là, on fait de l'interassociation avec sous l'égide de la préfecture.
Ouais, en cas d'événements majeurs, voilà. Peut-être aussi des catastrophes naturelles.
Voilà, des catastrophes naturelles et ainsi de suite.
On a la chance dans notre région de pas être trop concerné, touché par ça. Si maintenant on parle des Jeux Olympiques donc de Paris 2024, la protection civile, j'imagine, à l'échelle nationale a été mobilisée sur cet événement qui était en plein de petits événements. Comment la protection civile 49, Thierry, a été impliquée dans ce dispositif ? Il y avait 1000 personnes, je crois. Alors 1000 personnes à l'échelle nationale, j'imagine.
En fait, l'association 49 dépend d'une fédération et c'est la fédération qui a décroché le contrat et la protection civile est retenue sur 66% des postes. Les 34 autres pourcents se partageaient avec la Croix-Rouge, la Croix-Blanche et l'Ordre de Malte, il me semble. Et donc, du coup, on était détachés sur différents sites pour pouvoir intervenir comme l'on le fait, nous, sur des DPS, c'est-à-dire sur des dispositifs de postes de secours.
Alors, Thierry et Luc, vous étiez sur Paris.
C'est cela, oui.
Tout à fait.
Sur quel type d'événement ? Sur le Stade de France, vous aviez un poste bien précis ou vous bougiez ?
On avait différents sites, en fait. Avec Luc, on était une semaine, on n'était pas sur la même semaine. Ah, donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait le village olympique, Bercy, la boxe, j'ai fait Roland-Garros. On était mis sur différents sites à chaque fois.
Mmh. Ouais, Luc ?
Oui, pareil, moi, j'ai fait l'Arena Bercy, l'Arena au niveau de la piscine aussi, et puis également on a fait des stades d'entraînement également, l'athlétisme également.
Ouais, il y avait de quoi faire, même jusqu'à Nice, Léa, puisque tu étais toi à l'autre bout de la France. Qu'est-ce que tu faisais là-bas?
Eh bien, Nice, c'était que du foot, du football au stade de Nice, donc jusqu'à 40 000 personnes. Et il y avait du football féminin et masculin, ça dépendait des jours.
Donc toi, ta mission consistait à faire de la veille, tu étais en bord de pelouse, parce qu'il faut repréciser quand même, c'était à la fois les publics et à la fois les athlètes aussi.
Tout à fait. Alors, les équipes tournaient, on assurait la protection des civils et des joueurs que dans l'enceinte du stade. Donc il y avait des équipes dans des infirmeries, dans les gradins, etc. Et aussi des équipes en bord de pelouse, qu'on appelait les équipes bord de terrain. Et moi, j'ai eu la chance d'y être et c'était super.
Donc Léa, Thierry et Luc, vous avez passé votre été en grande partie là-bas. Vous étiez mobilisés, vous êtes bénévoles pour la protection civile 49, reprécisons-le, Maine-et-Loire. Pourquoi cet engagement? Quel souvenir ça va laisser? Tout ça, on va en parler dans quelques instants à l'écoute de Topette toujours. Mais avant tout ça, on fait une première pause musicale. Et ça commence à annoncer notre sujet d'après. Ça, c'est que de l'amour. J'allais le dire en espagnol, mais c'est que de l'amour de Sidi Huacho. Et on revient juste après.
Accoudé au comptoir, mets-moi un shot de bon mots à la santé de mes lascars. Mojito cubano, on se rafraîchit la mémoire. La lucha à notre histoire, on se remémore les victoires. On déboulonne les statues des colons franchouillards. Les Colbert et Combert, au goulag, au mitard. J'ai le cœur qui palpite quand tu me parles de révolution. C'est terrible, je suis sensible, que de l'amour dans mes chansons. Mon peura est à poil comme Madame Massiro. Invasion de prolo, les bourgeois sont quichots. Sont fâchés, ils ont fiché les islamos, les gauchos. Y'a trop de seum et trop de faf à la table de Pascal Pro. Les débats sont piégés, la télé, fachosphère. T'es lynché sur Twitter, si t'as pas la peau claire. Sont les mots qui nous accusent, sont les mots pour nous faire taire. Mais nous on a Malcolm, Franz Fanon et Nécessaire. Ils veulent la guerre, moi, n'a que de l'amour. Je te répète qu'on s'entête, qu'on se frappe, pas demi-tour. On a que du love, que du love, que de l'amour. Et ça on te le jure sur la tête de Zemmour. Ils veulent la guerre, moi, n'a que de l'amour. Je te répète qu'on s'entête, qu'on se frappe, pas demi-tour. On a que du love, que du love, que de l'amour. Et ça on te le jure sur la tête de Zemmour. Gorge, non tu peux pas respirer, non tu peux pas t'échapper, non tu peux pas te libérer, non tu peux pas adhérer, non tu peux pas les aimer, tu peux que détester tous ceux qui veulent t'oppresser. Le pays des droits de l'homme, j'y crois pas, ça t'étonne. Des fachos qui ratent, des grenades qui débordent, y'a tout le monde qui s'en cogne, c'est chacun pour sa trogne, chacun son iPhone, son petit colis Amazon. Je te préviens, la famille, faut pas qu'il y ait de malentendus. J'ai de l'amour pour les nôtres et pas pour les lâches, les vendus. Je suis têtu, je suis sectaire, quand j'aime c'est que ma tribu. Si t'es pas trop faillot, trop gilfra, t'es bienvenu. Je balance des parpaings, des refrains, des câlins. Mon prénom de Sarrazin, le cauchemar zémorien. Dans ce patelin, trop cistra, trop chauvin, trop pétain. On veut plus de Jean Moulin et beaucoup moins de Darmanin. La guerre, moi, n'a que de l'amour. Je te répète qu'on s'entête, qu'on se frappe, pas demi-tour. On a que du love, que du love, que de l'amour. Et ça, on te le jure sur la tête de Zemmour.
Que de l'amour de Sidi Huacho à l'écoute du 100.5 FM de Radio G. Et tout à l'heure, on sera justement avec Fred et Bruno pour parler du rock et des vaches, qui aura la chance d'avoir dans la programmation Sidi Huacho entre autres. Mais avant tout ça, revenons avec Léa, Luc et Thierry pour parler de la protection civile de Maine-et-Loire, qui donc, en l'occurrence, a été impliquée pour agir lors de Paris 2024 jusqu'à Nice. On l'a bien vu, même jusqu'à Haïti. Est-ce que au sein de l'antenne de Maine-et-Loire, il y a des personnes qui ont été jusque là-bas? Peut-être pas, Thierry, non, tu me fais nom de la tête.
Faut aussi prendre en compte la distance. Hein. Haïti, c'était les locaux qui sont restés là-bas, quoi.
Ouais, c'est plus simple de faire appel à la main-d'œuvre, aux ressources humaines locales, bien évidemment.
Tout à fait.
Si on revient un peu sur vos expériences respectives, du coup, quel souvenir marquant garderez-vous de ça? Puisqu'on sait que les bénévoles, globalement, qui ont été impliqués sur l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, le public, enfin, voilà, on a eu du mal à tourner la page, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre nous. Léa, je te vois sourire. Est-ce que tu as un souvenir marquant sur ce que tu as vécu, quelque chose d'historique, finalement, en participant à ça?
Historique, je sais pas, mais la danse de la frige avant le début des matchs, c'était plutôt sympa. Après, la protection civile, c'est aussi une grande famille, donc on fait de belles rencontres parce qu'on était en renfort national, donc il y avait beaucoup de départements qui sont venus à Nice pour assurer le dispositif de secours pour les matchs de foot.
L'occasion de voir des têtes qui font la même chose que toi, mais dans d'autres secteurs, en fait.
Tout à fait, c'est ça.
Thierry, toi, quel souvenir gardes-tu déjà en tête de cette aventure?
Pas mal de souvenirs, surtout, comme le disait Luc tout à l'heure, ce qu'on fait, ça va du vide-grenier au motocross, en passant par le SCO et puis des renforts nationaux tels que le carnaval de Nice, les fêtes de Bayonne, donc tout ça on le vit de l'intérieur, mais les JO c'était encore plus grandiose de vivre un tel événement de l'intérieur et puis d'intervenir sur du public, mais là où il y avait énormément de monde. Et puis aussi on était, avant de partir, formés pour les bords de terrain, donc on a eu des formations qui étaient un petit peu différentes de nos protocoles, et tout ça en fait c'est très formateur et très enrichissant. Donc globalement, en ce qui me concerne, cette semaine passée à Paris, j'en ai encore plein dans la tête, et puis je pense que je n'oublierai pas ça tout de suite.
Luc, est-ce que tu as le sentiment, toi, d'avoir pu aussi profiter de l'événement, comme dit Thierry à l'instant, de ne pas juste être que dans l'engagement, mais aussi d'avoir le sentiment de participer à tout ça, et puis même d'en profiter, puisque quand on est en bord de terrain, malgré tout, on voit ce qui se passe.
Ah bah tout à fait. Mon souvenir, c'était les demi-finales de basket de l'équipe de France, féminin et masculin. Donc, pour ma part, j'étais au bord du terrain et donc c'était très très une super ambiance avec le public et puis également, comme disait Thierry, c'est vrai que on arrivait avec nos autres secouristes, des autres départements. C'est vrai qu'il y a une entraide, des échanges très bien en fait, et puis nous on était logés dans un collège, donc c'est vrai que ça a permis, on était 300 dans le collège, donc ça a créé une émulation et puis un échange de vie très intéressant.
Il y a des événements comme ça qui marquent un petit peu l'esprit commun. Moi j'ai pas connu, mais apparemment quand on a marché sur la Lune, tout le monde se souvient, ceux qui étaient là à ce moment-là, comme Raphaël, se souviennent d'où ils étaient à ce moment-là. Vous, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous étiez sur place ou pas tout à fait mobilisé encore, Thierry?
En ce qui me concerne, on est parti à 3 le premier jour, mais non, du coup, on est arrivé, nous, le jour de la cérémonie, donc... On l'a vu à la télé, parce que du coup les effectifs étaient déjà mis en place, quoi. Donc on est arrivé nous vers midi à Paris et c'était déjà parti au niveau de l'organisation. Donc
bon, en tout cas vous étiez quasiment au cœur de l'événement, à deux pas seulement de cette grande date. C'était le 26 juillet, hein, de mémoire.
C'est cela, le vendredi 26. Oui, on est arrivé nous le vendredi 26 à midi, mais on a eu des retours parce que dès le lendemain on était c'était parti. Et puis, tous les secouristes qui ont participé la veille nous ont fait des retours. Et puis, on avait toutes les petites infos, tout ce qui s'est déroulé et tout ça. C'est plein de discussions, plein d'échanges qui sont aussi très, très intéressants dans ce genre d'événement, quoi.
Bon, en tout cas, un événement qui malheureusement ne pourra pas se reproduire de si tôt, mais c'est une opportunité que vous avez pu avoir grâce au fait d'être engagé justement à la protection civile, et ça vous apporte tout un tas d'autres opportunités, à la fois de rencontres et notamment des rencontres très humaines. On en parlait un petit peu hors antenne. Léa, j'aimerais que tu nous partages ton témoignage, parce que tu expliquais que justement, il y a des freins des fois à la volonté de s'engager, que ce soit, on a l'impression que ça va être contraignant, on a l'impression que bah oui, on va avoir du sang, mais j'aime pas le sang, mais en fait, non, c'est beaucoup plus accessible. On peut aider d'autres manières aussi.
Tout à fait. Comme le disait Luc, les missions de la protection civile se sont aider, former et secourir. Et donc, il n'y a pas que la partie secours où on peut amener à avoir du sang, être amené à avoir du sang. Mais on peut aussi aider, par exemple, à l'hiver 2024, la préfecture a déclenché le plan grand froid dans la salle de sport montagne. Et donc, des hommes sans-abri ont pu être hébergés. Et nous, on assurait la protection là-bas. Donc, ça fait de belles rencontres et ça fait partie de la mission aider. S'il y a des catastrophes naturelles, comme dans le Pas-de-Calais, par exemple, les inondations, on peut être amené à partir en renfort là-bas pour le soutien à la population sinistrée. Il y a plein d'autres manières et aussi on peut s'engager via la formation. On peut devenir formateur des gestes de secours.
Yael, justement, si tu veux bien t'emparer du micro, toi, t'as posé une question, je crois, à Léa tout à l'heure, qui t'interrogeait.
Oui, ça m'intéressait de savoir s'il fallait des discours pour des diplômes pour s'engager ou pas du tout, on pouvait le faire sans.
Non, on peut rentrer à la protection civile sans diplôme, sans expérience, sans rien, et on peut créer notre expérience et avoir des diplômes ou pas quand on est déjà engagé.
Super.
Luc, Thierry, pour la suite maintenant des aventures vous concernant, votre engagement au quotidien, ça continue. J'imagine que ça a renforcé votre volonté de rester à la protection civile et puis de continuer à donner des coups de main à la population.
Alors, en ce qui me concerne, oui, parce que je fais aussi partie du bureau, donc je suis aussi trésorier de l'association. Donc il y a d'autres missions que aider, former et secourir. Il y a aussi, faut faire vivre cette association. Donc on est un bureau avec un CA, donc il y a plein de choses aussi, entre autres à faire en dehors des dispositifs de secours mais on est toujours occupé quoi, ça, et puis en ce qui me concerne, d'ici 2 ans, si tout va bien, je serai à la retraite, donc j'aurai encore de quoi donner beaucoup de temps à la protection civile.
Alors avant de tourner la page et puis de passer du côté d'Andar avec du rock et des vaches, Luc, sur la protection civile justement, parce qu'on peut aussi parler des premiers gestes qui sauvent, hein, qui sont importants à rappeler puisqu'on vous a au micro ce soir dans Topette, et puis aussi comment on fait pour rejoindre l'équipe éventuellement si on a envie de passer des bons moments comme ça et puis d'avoir des souvenirs aussi indélébiles.
Donc en fin de compte, vous pouvez, on est sur le site internet protection civile. Sur le site internet Protection Civile, vous avez tous les départements et dont la protection de 49. Et donc là, on vous envoie un message et on vous contacte déjà dans un premier temps pour savoir pourquoi vous venez chez nous. Et ensuite, après, on vous reçoit pour pouvoir ensuite présenter la protection civile et échanger avec vous et puis pour pouvoir ensuite intégrer la protection civile. Donc nous, le but, c'est aussi de vous accompagner au maximum sur ce que vous souhaitez faire chez nous, sur la partie, comme disait Léa, secourir, protéger et aider. Et donc nous, Léa, on essaie de vous accompagner et nous également développer au sein de la protection civile, au sein du territoire du Maine-et-Loire. On a une antenne sur Cholet, qui est là depuis un an et demi, Montrevaux également, donc depuis 6 mois. Donc on essaie de créer un maillage maximum au plus près, en fin de compte, des adhérents qui résident dans ce secteur. En fait, l'idée c'est ça, c'est de créer justement ce maillage-là et créer justement cette émulation et cet engagement au sein de la protection civile.
Bon, en tout cas, merci, parce que grâce à vous, on se sent un peu plus en sécurité. Et puis, si l'envie vous passe par la tête de rejoindre l'équipe, Luc vient de donner les infos pratiques qu'on redonnera tout à l'heure en fin d'émission. Restez avec nous, bien évidemment. On fait juste un petit détour par l'agenda culturel avec Raphaël. Et juste après, nous accueillons Fred et Bruno pour parler du rock et des vaches, mais aussi du rock et des veaux. Mais avant tout ça, donc, l'agenda culturel.
Topette, l'agenda culturel.
Bonsoir Raphaël, ça tombe bien, j'ai amené mon agenda et j'attendais avec impatience ton grand retour pour savoir quels conseils tu me donnais en termes de programmation culturelle pour les 15 prochains jours.
Eh bien écoute Pierre-Benoît, je suis ravi de pouvoir t'aider, surtout que ces 15 prochains jours seront prometteurs en termes de sorties culturelles. Alors pour m'aider, je me suis focalisé aujourd'hui à ce qui va se passer dans les maisons de quartier, car oui, les centres sociaux sont nombreux à Angers et il s'y passe souvent des choses surprenantes et culturelles. Alors un petit peu moins cette semaine, mais à partir du week-end prochain, c'est la fête.
Eh ben, ça tombe bien, j'ai rien de prévu le week-end prochain.
Alors, un conseil, prends de bonnes chaussures, car je t'emmène, Pierre-Benoît, à la découverte de Art en quartier. Alors, c'est une balade artistique du côté du quartier Ney, Chalouère, Saint-Serge. On va déambuler comme ça, de salle en salle, mais aussi chez des habitants, à la découverte d'expositions où l'on y verra toutes sortes d'œuvres artistiques dans tous les domaines, broderie, photographie, dessin, peinture. On y découvrira également des urban sketchers, des gens qui dessinent dans la rue, donc j'en ferai partie notamment. Alors, Art en quartier, c'est chaque après-midi de 14h à 18h. C'est une initiative proposée et portée par un collectif d'habitants et soutenue par la maison de quartier carnet. Il y aura également des animations, dont du chant, des lectures théâtralisées, des contes, des démonstrations de carnets de voyage.
Ça, c'est Art en quartier le samedi 4 et dimanche 5 octobre. Et pour le 9, là, j'ai rien le mercredi 9. Tu me conseilles quoi?
Alors, attends, je regarde. J'ai quelque chose à te proposer à 18h30. Est-ce que tu es libre?
Alors, juste après l'émission 19h, mais sinon, oui.
Ah, oui. Alors, je t'emmène assister à l'inauguration de l'exposition Femmes et familles, portraits intimes aux 42 places des Justices, autrement dit le 3 mars. Cette expo a été créée par des bénévoles et salariés de l'équipe Jeunesse et Famille. Elle retrace l'histoire de 12 filles et femmes de 12 à 80 ans. Elles ont été interviewées par l'équipe sur le thème de la famille avec une orientation sur la question du genre et des reproductions familiales de génération en génération. Alors ce soir-là, pour le lancement, on assistera autour d'un apéro à un concert de la chorale Les Louises sans Michel. Et il y aura également des ateliers chaque mercredi de l'exposition. Mais je ne te lâche pas, Pierre-Benoît, le lendemain, on remet une sortie.
Donc ça, c'est 9 octobre, 18h30 pour ceux qui peuvent. Et donc le lendemain, on va où?
Eh bien, je t'emmène dans un autre quartier d'Angers, cette fois-ci à Belle-Beille, au centre Jacques Tati. On ira visiter l'expo Mon voisin l'artiste, où des artistes amateurs et professionnels exposent des œuvres. Alors, Mon voisin l'artiste, ça fait quand même 21 ans que ça existe, dans plein de quartiers d'Angers. C'est un événement attendu par de nombreuses personnes, c'est libre, gratuit. Ce sont souvent des expos riches et très soignées. On y retrouve de la peinture, des dessins, des photos, divers arts sont représentés. Donc, à partir du 8 octobre, c'est dans le quartier Belle-Beille, puis il y aura ensuite la Roseraie, les Hauts des Blanchets. Donc rendez-vous sur Facebook pour découvrir tout le programme de cette édition 2024.
Donc l'expo Mon voisin, l'artiste Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à me proposer pour le 12 octobre?
Alors samedi 12 octobre à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, Titi Robin sera présent en tant que parrain pour lancer un temps fort à la découverte de la culture des gens du voyage. L'événement s'intitule Manouche et Gadget et de multiples propositions culturelles et artistiques seront proposées du 12 au 25, parmi lesquelles un concert donc avec Titi Robin, Roberto Sadna et Maria Robin, un apéro-concert avec Fred de Charcot et Anton Weiss pour un hommage à Django Reinhardt, une projection du film Les Autres Chemin. Donc conférences, débats, web radio, visites de l'aire d'accueil sont également au programme de cet événement. Alors par ailleurs, n'hésite pas Pierre-Benoît à checker le programme complet de cette salle de spectacle moderne et accueillante. Donc rendez-vous sur le site de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. La salle s'appelle Camille Lepage, la salle Camille Lepage. Et on y retrouve du théâtre, des concerts, du cinéma, des conférences.
Et ben voilà pour ce petit tour d'actu. Alors Raphaël, bien évidemment, qui veut engranger des followers, j'en profite, je te tends la perche parce qu'on peut communiquer avec toi via Instagram pour découvrir d'autres choses ou faire ses propositions.
Voilà, donc vous pouvez m'envoyer des infos culture sur mon compte Rafazap. Alors Julien m'a reparlé de la pièce de théâtre Doloresa qui se joue au quai du 1er au 4 octobre. Bruno m'a dit d'écouter l'émission QG sur Radio G demain, mardi à 19h. Olivier nous conseille le concert des New Yorkais de Bodega au Shabada le 2 octobre. Benjamin nous rappelle la dernière de Degi Uri Orchestra à l'Entracte à Sablé. Marine nous indique que sa BD Sans d'encre est en pré-vente, une BD qui parle d'un voyage intérieur mêlant absurde et génétique, poésie et humour. Donc plus d'infos sur son compte Insta Marine Hello. Et voilà, Pierre-Benoît, c'est terminé pour moi pour cette fois-ci.
Merci beaucoup Raphaël pour ce point sur les actus culturels, l'agenda culturel. J'étais tellement absorbé par tes paroles, voilà, que j'avais oublié de lancer le jingle. Mais celui-là, je vais pas oublier de le lancer pour accueillir notre deuxième sujet de la soirée.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Salut, bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bonsoir Fred.
Bonsoir Pierre-Benoît, merci de nous accueillir.
Ben merci de revenir une fois de plus dans Topette. Bruno, c'est la première fois, mais Fred, tu étais venu l'an passé, je crois déjà,
pour
nous parler de la même chose dont on va parler ce soir ensemble, le festival du rock et des vaches, et le lendemain, du rock et des veaux. Alors, on parlait du 12 octobre tout à l'heure, ben justement, on continue avec cette date, puisque c'est le samedi 12 octobre et le dimanche 13 octobre, hein, c'est bien ça Fred?
C'est tout bien, ouais. À 17h30 le samedi et à 14h30 le dimanche.
Voilà, avec un petit flyer recto verso cette année, ça c'est sympa. On a la version rouge et la version bleue, comme pour les Pokémon, je sais pas si vous avez connu ça.
Ouais, ben on a modernisé notre visuel, effectivement. On était en noir et blanc pendant plus de 20 et quelques années.
Et on passe à la couleur avec du rock et des vaches. Ça se passe du côté d'Andorre. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple Léa, Yael, qui sont avec nous ce soir dans le studio, pour présenter le festival, Bruno, qui était à la fondation en 1999. C'est quoi l'âme de ce festival? Ça se passe dans un champ, j'imagine?
Alors non, pas du tout. Alors c'est vrai que nous, à Andar, nous avons des vaches, mais nous avons aussi des salles, parce que ça se passe dans une salle, ça s'appelle la salle Jeanne de Laval, à Andar, qui se trouve pas très loin du Super U, pour citer. Voilà, donc à l'origine, quand ça a été créé, le festival en 1999, c'est les jeunes de la commune, moi j'étais président du foyer des jeunes, et donc les jeunes de la commune disaient, voilà, ici, enfin, on leur disait quand ils allaient sur Angers, au collège ou au lycée, sur Andar, vous avez que des vaches. Et donc les jeunes, ça les a un petit peu titillés, et ils se sont dit, ben c'est pas possible, on a aussi autre chose, donc on est capable de faire, entre autres, par exemple, du rock. Voilà, quoi, on est capable d'organiser un festival, pourquoi pas. Donc, dans l'enceinte du foyer des jeunes, avec un animateur, c'est ce qu'on a fait. On a fait fédérer un peu tout le monde dans la commune, voilà, tous ceux qui voulaient participer, on a créé ce festival du rock et des vaches. Ça venait le nom est venu de là.
Alors le rock à la fin des années 90-2000, c'était un peu, ça cartonnait chez les jeunes, ça cartonne toujours autant, Fred? On reste sur une programmation rock?
Pas du tout.
Pas du tout.
Rock et des vaches, c'est un nom de festival comme on peut aller à Rock en Seine et apprécier Amadou et Mariam et puis un DJ électro. Le rock et des vaches, c'est plutôt une ouverture d'esprit sur l'esprit rock, quoi. Et c'est vrai qu'on n'enfonce pas le clou clairement sur une programmation rock en tant que telle. Après, tous nos artistes ont la lame de fond rock, punk, balkanique.
Dans la démarche, en tout cas.
Dans la démarche, voilà, ce sont des gens plutôt rock, quoi. Évidemment, Bob is not dead, là, qui va ouvrir le festival cette année. C'est, voilà, c'est un gars issu de la pro, enfin, il transpire, l'âme d'un rocker, quoi. Mais voilà, son thème musical, c'est pas forcément d'écrire du rock, c'est de la chanson, c'est, enfin voilà, c'est pas l'identité du rock et des vaches, en tout cas, elle se décline dans l'éclectisme et dans l'esprit de réunir l'intergénération, les gens qui façonnent Brun Andar, la communauté de communes Loire-Authion maintenant, puisqu'on appartient à cette dimension de Loire-Authion qui est rattachée désormais à l'agglo d'Angers, quoi, qui est la plus grosse commune d'Angers, du coup, 16 000 habitants.
Donc, oui.
Ça a un petit peu modifié un petit peu notre regard hyper rural de notre petite commune d'Andar qui s'est un petit peu un petit peu fondu dans ce projet de regroupement.
Alors justement, je rebondis sur ce que disait Bruno tout à l'heure. En 1999, les jeunes, on leur disait qu'il y avait que des vaches. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas justement avec cette entité qui est plus vaste. Et puis même. Du coup, il n'y a plus que des vaches, parce que grâce à ce festival, on fait quand même venir des grosses têtes d'affiche. La caravane passe, faut quand même en toucher un mot sur la programmation.
Ouais, la caravane passe, c'est quand même 20 ans de parcours. C'est une recette visiblement qui fait mouche à chaque fois partout et passe. On a eu la chance de les redécouvrir au Shabada en début d'année, au mois de mars, avec Debout sur le Zinc. Une salle pleine, un jeudi soir. Un Shabada complet dans l'ambiance, dans l'énergie. Ça a fait quand même beaucoup de gens qui étaient insatisfaits de pas avoir pu être présents. Donc voilà, c'est aussi une manière de récupérer à l'automne un petit peu cette dynamique en pleine actualité avec bon nombre de featuring sur ce nouvel album, notamment Oriane Lacaille, Rachida, Trio, Moussa Hakim de Zebda, San Severino. Enfin bref, c'est quand même des gens qui ont multiples connexions et qui sont ouverts sur les autres et sur le monde, quoi. Et c'est à l'image du rock et des vaches, on espère en tout cas transpirer cette ouverture d'esprit.
Alors si vos oreilles avaient perdu le souvenir de la Caravan Pass, l'occasion de re-entendre un petit peu ça sur Topette, c'est le remix de 2022 justement avec Rachida, Perdu ta langue. Et on vient juste ensuite ensemble pour continuer à parler de la programmation.
C'est une chanson immigrée de dynastie nomade et made in nowhere. Avec un air déraciné, je suis de là où je suis né sans châter. Moi je débarque au village sin pretension et ça fait parler jacté les autochtones. Faut savoir si mon nom est personne. J'ai l'accent du métèque et la tête qui questionne. Qu'est-ce qui se passe étranger? T'as perdu ta langue? Ouais, je préfère la paumer plutôt que me la faire pendre ailleurs. M'envoyer en l'air, sifflant l'air migrateur. Le surnaturel, je suis qu'un alien. I lost my tongue.
Je joue les interlopes, slang, patois, argot des putas madre, tout lexique cosmopolite, baïonné, mon javanais ayant pas très bien tourné, j'ai donc dû abandonner ma langue au chaboté.
Perdu ta langue avec donc c'est la Caravan Pass Remix 2022 en featuring avec Rachida, et puis on avait des informations complémentaires en off avec toi Fred sur tous les liens qu'il y avait, on parlait de Soviet Suprême l'an passé, on est toujours au Festival du Rock et des Vaches à Ondar. Là c'est la grosse tête d'affiche, mais il n'y a pas que ça dans la programmation hein, Bruno, on a je te vois avec le petit flair, non, t'as quel côté du flair?
Alors j'ai laissé parler Fred parce que c'est le spécialiste de c'est la programmation, c'est lui, connaît tout par cœur, c'est lui qui gère tout. Alors
Sidi Wacho en fait c'est le binôme MAP, ministère des Affaires Populaires, qui a officié il y a quelques temps avec HK, les saltimbanques. On lâche rien. C'est une déformation, excusez-moi.
Du rock et des vaches.
Et ouais. Et du coup, Sidi Wacho, c'est Saïdou, c'était le binôme respectif qui formait le MAP qu'on a eu à Andar il y a une quinzaine d'années sous le nom Zone d'Expression Populaire. Et là, il revient parce qu'il est parti au Chili avec son sac à dos et sa musique et il a rencontré des gens exceptionnels, des Chiliens.
Ça, c'est rock comme démarche.
Voilà, dans l'attitude. Et pourtant, voilà, la musique, elle est hip-hop, elle est orientale, elle est cumbia parce que voilà, il s'est enrichi de rencontres et il a ramené ses rencontres en France avec du coup notamment DJ Antu et Juanito Ayala, et ce sont ces deux Chiliens qui viennent apporter aussi la fraîcheur de Sidi Wacho et lui-même Saïdou, lui-même franco-algérien, Roubaix, Lille, donc Lille, le Chili, le pont est tissé, et puis bah voilà, ils officient depuis plusieurs années, il y a plus de 300 concerts à leur effigie. Voilà, c'est un pont entre l'Amérique du Sud et le nord de la France. Et
tout ça, c'est à l'espace Jeanne de Laval. En plus, on est que sur le deuxième nom de la programmation et il en reste encore plein derrière. Ashkabat, t'as déjà parlé de Bob's Not Dead et Bamboo Station.
Bamboo Station, c'est un homologue sur la radio campus, radio étudiante Angers, le lundi soir. Il officie depuis 15 ans avec son émission Bamboo Station, qui est une émission reggae sans frontières. C'est un amoureux du son qui détecte les pépites et qui nous concentre ça tous les lundis soirs avec son émission Bamboo Station. Joe nous a toujours accueillis comme à Radio G en fait depuis les années dans son émission, et puis naturellement pour fêter ses 15 ans, on a choisi de l'inviter parmi nous pour faire les intermèdes entre les groupes de la grosse scène. Lui sera sur la zone extérieure, là où on peut se restaurer, là où on peut prendre des documents de prévention, là où on peut rencontrer aussi les secouristes aussi, etc. Pour accueillir tout ce petit monde-là. Donc voilà.
Alors Fred, du coup, comme il nous reste le temps, on voit le temps qui passe, on va tourner le flyer si ça te dérange pas.
Allez.
Tu parlais du lendemain, parce que là, on est plutôt sur les. Ça, c'est la particularité du festival, c'est qu'on a du rock et des vaches le samedi soir pour les parents qui vont, on suppose, boire peut-être des consommations alcoolisées, avec modération, on l'espère. Et le lendemain, c'est plus pour les enfants, avec une programmation, du coup, tout autant rock et aussi dans la démarche. On a la compagnie du Poil de la Bête, ça reste raccord. Hein.
Exact, le Poil de la Bête, c'est Hugo Barbet, c'est un spectacle jeune public qu'on a détecté ensemble. Ça sera à l'issue de la journée qu'on propose pour les enfants. Il y a du maquillage, il y a la compagnie d'initiation aux arts de cirque, il y a des jeux géants en bois, il y a une médiathèque dédiée aux vaches, il y a maquillage, crêpes, etc. Et à l'issue de tout ça, à 16h30, après ces deux heures d'activité, d'animation, on propose le concert du Poil de la Bête. Quoi. C'est un concert pour enfants à partir de 3 ans, où Hugo Barbet met en valeur et en scénette de manière humoristique et décalée les animaux, quoi, avec une énergie festive encore une fois, mais version jeune public, quoi, et avec du rock et des veaux, c'est pour les marmots, effectivement, c'est une démarche pour nous D'assurer la relève au festival et puis de permettre de bénéficier d'une belle scène de la veille qui reste implantée pour les enfants avec un son modéré bien sûr et adapté. Et donc voilà, des jeux surdimensionnés en bois, du maquillage, un petit paf à 6 € sur Hello Asso ou au pas de la porte. Voilà, l'ambition, elle est encore une fois désintéressée. C'est vraiment réunir encore une génération qu'on ne fait pas le samedi soir, comme tu dis, puisque c'est plutôt festif et peut-être parfois un peu engagé. Et pour le coup...
Les parents reviennent malgré tout le lendemain.
Les grands-parents ramènent les enfants... aux parents, qu'on fait la fête.
Qui sont encore sur place.
Ils sont potentiellement
encore. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fin de compte, moi, je suis aux entrées, donc, le soir et puis le lendemain, et c'est vrai de retrouver les parents qui viennent avec les enfants, ou voilà, c'est, parce qu'en fin de compte, faut dire que c'est un festival pour les enfants qui est festif, hein. Faut voir les gamins sauter, faire la fête, danser. C'est vraiment génial, hein. Franchement, moi, je suis grand-parent, voilà.
Et les parents qui sont pas en reste.
Voilà, non, franchement, faut venir, hein. C'est vraiment super bien.
Les petits parents, s'extasie de voir leurs petits-enfants faire les foufous, du coup ils se donnent aussi. Le groupe il est souvent très interactif avec l'ensemble du public et la recette elle fait mouche et ça permet sur ce samedi dimanche en tout cas d'apporter une touche festive, de se réunir, de se retrouver et de partager un moment qu'on n'a pas souvent l'habitude de partager. En tout cas c'est ce qu'on essaye de susciter depuis 99 et...
En tout cas, vous le reflétez bien, ne serait-ce qu'au travers de vos propos, ça donne envie. On est déjà dans la fête, je trouve, du rock et des vaches et du rock et des veaux. Donc le dimanche, enfin samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre, le lendemain, on va donner les infos pratiques dans quelques instants, Fred et Bruno, si vous le voulez bien. Et puis on va reparler aussi de la protection civile de Maine-et-Loire, si vous voulez rejoindre l'équipe. Avant tout ça, on fait un petit détour par un podcast des légendes imaginaires en Anjou et on se retrouve juste après.
Bienvenue dans notre chronique des légendes de l'Anjou. Allons dans les ardoisières de Trélazé, où se cache un secret vieux de plusieurs siècles. Je vais vous conter l'histoire de la fée des ardoisières, une légende qui mêle magie, amour et tragédie dans le cœur de l'Anjou. Notre récit commence au XVe siècle dans les entrailles de la terre angevine. Les ardoisières de Trélazé étaient déjà réputées pour la qualité exceptionnelle de leur schiste bleu. Mais ce que peu savaient, c'est qu'elles abritaient aussi un être mystérieux, une fée nommée Ardoria. Ardoria n'était pas une fée comme les autres. Son corps était fait d'ardoises vivantes. Ses yeux, deux éclats de pyrite dorée, brillaient dans l'obscurité des galeries. Elle vivait en harmonie avec la roche, protégeant les mineurs des éboulements et guidant leurs pioches vers les plus beaux filons. Un jour, un jeune mineur nommé Mathieu descendit pour la première fois dans les profondeurs de la carrière. Ardoria fut immédiatement fascinée par sa beauté et sa gentillesse. De son côté, Mathieu fut ébloui par cette créature extraordinaire. Malgré leurs différences, ils tombèrent éperdument amoureux. Pendant des mois, ils se retrouvèrent en secret dans les galeries abandonnées. Ardoria montrait à Mathieu les merveilles cachées de ce royaume souterrain, les cavernes aux cristaux étincelants, des rivières souterraines aux eaux d'un bleu profond. Mathieu, lui parlait du monde de la surface, des forêts verdoyantes et du ciel étoilé. Mais leur bonheur était menacé. Les autres fées des éléments, jalouses de cette union entre un immortel et un mortel, décidèrent d'intervenir. Elles lancèrent un ultimatum à Ardoria. Soit elle renonçait à Mathieu, soit elle perdait ses pouvoirs et deviendrait mortelle. Déchirée, Ardoria choisit l'amour. Elle abandonna son immortalité pour vivre aux côtés de Mathieu. Mais le prix à payer fut terrible. À mesure que ses pouvoirs s'estompaient, son corps d'ardoise commença à se fissurer. Mathieu, désespéré, chercha un moyen de la sauver. Il parcourut l'Anjou en quête d'un remède, consultant guérisseurs et alchimistes. Finalement, un vieil ermite lui révéla qu'il existait une solution. Si Ardoria retournait dans les profondeurs de la terre avant que la dernière fissure n'atteigne son cœur, elle pourrait survivre, mais sous forme de statue d'ardoise. Le temps pressait. Mathieu porta Ardoria jusqu'aux ardoisières, descendant toujours plus profond dans les galeries. Alors que la dernière fissure atteignait sa poitrine, ils arrivèrent dans une immense caverne inconnue. Là, sous les yeux de Mathieu, Ardoria se transforma lentement en une magnifique statue d'ardoise. Depuis ce jour, on raconte que l'esprit d'Ardoria habite toujours les ardoisières de Trélazé. Les mineurs affirment parfois entendre son chant mélancolique résonner dans les galeries. Certains prétendent même avoir aperçu une silhouette féminine faite d'ardoises guidant les égarés vers la sortie. La légende veut que si un couple amoureux sincère trouve la statue d'Ardoria et verse une larme sur son cœur de pierre, elle répondra vie pour un bref instant, bénissant leur union d'un amour éternel. Aujourd'hui encore, les ardoisières de Trélazé conservent une aura de mystère. Les visiteurs qui s'aventurent dans le parc des ardoisières d'Angers ressentent parfois une présence bienveillante, comme si la fée des ardoisières veillait toujours sur un lieu chargé d'histoire et de magie. La prochaine fois que vous visiterez les ardoisières de Trélazé, tendez l'oreille. Peut-être aurez-vous la chance d'entendre le chant d'Ardoria, écho d'un amour plus fort que la mort, résonnant à travers les siècles dans le cœur de l'Anjou. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des mythes et légendes de l'Anjou.
Les mythes et légendes totalement imaginaires, hein, précisons-le, de l'Anjou, vous pouvez vérifier les infos, mais a priori ce sont surtout des histoires qu'on peut raconter à nos enfants, un petit peu comme pour du rock et des veaux. On en reparle dans quelques instants. Avant tout ça, on va reprendre dans l'ordre chronologique de nos invités de la soirée. Nous étions avec Thierry, Luc et Léa de la protection civile de Maine-et-Loire. On parlait de votre expérience sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi voilà de votre engagement. On l'a survolé comme ça, mais sur l'engagement, c'est très important, c'est primordial. Léa, je vois que tu as le micro juste en face de toi. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à rejoindre la protection civile?
J'ai de la famille qui est pompier. On m'avait proposé de faire pompier volontaire, mais c'était trop de contraintes de temps. Donc je me suis dirigée plutôt vers une association agréée de sécurité civile, dont la protection civile, ma famille connaissait. Et voilà.
Donc ça veut dire plus simple à gérer en termes d'emploi du temps, et ça c'est un argument justement pour recruter des personnes, puisqu'apparemment vous recrutez tout le temps, Luc, si tu, en tant que président, si tu veux bien t'emparer du micro.
Oui, oui, bien sûr, on a toujours recruté pour proposer à tout à chacun de venir nous rejoindre. Donc c'est vrai que, comme disait Léa, on a des événements, et en fonction des événements, chacun s'y inscrit, et il n'y a pas d'obligation. Le leitmotiv, c'est nous, chez nous, c'est le plaisir, rien que le plaisir, mais il faut qu'on soit le plus professionnel possible, parce que bon, voilà, c'est important aussi d'acquérir des gestes dans une organisation qui soit le plus clair possible.
Et Thierry, tu confirmes le plaisir avant toute chose et le sérieux de l'engagement.
Tout à fait, et en plus, juste pour reprendre, moi je fais partie de la commission adhérente, donc je fais partie de ceux qui reçoivent les nouveaux, les volontaires, et on recrute toute l'année, on vous lâche pas, on vous laisse pas tout seul, on vous forme si vous voulez être secouriste, on vous aide, on vous forme aussi si vous voulez faire partie du SPS, donc venez nombreux, il n'y a pas de problème, vous serez bien accueillis et vous verrez, vous y resterez.
Voilà, la bienveillance, exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir dans Topette pour témoigner de votre engagement et de votre expérience cet été. Luc Allard, président, secouriste et chef de poste. Thierry Durand, secouriste, administrateur et membre de la commission adhérent, chef de poste également. Et Léa Manoury, secouriste qui était du côté de Nice cet été. Très rapidement, en une minute, pour du rock et des vaches et du rock et des veaux. Bruno, les infos pratiques, 12 et 13 octobre, ça se passe comment? On retrouve tout ça? Où? Pour ça, c'est payant, on doit réserver avant,
oui,
c'est mieux.
Oui, bien sûr, ça c'est payant. Donc du rock et des vaches, avec le flyer, ça, pour les veaux aussi, avec le code QR, on peut flasher et puis réserver directement.
Très moderne.
Ouais. Ah, c'est la première année qu'on fait ça, ouais. Donc c'est With Event pour du rock et des vaches, et c'est Hello Asso pour du rock et des veaux. Les entrées, pour le prix de l'entrée en pré-vente, c'est 18 € pour du rock et des vaches. Et 22 € sur place, et puis 6 € pour du rock et des veaux.
Voilà, faut juste trouver les grands-parents pour garder les enfants le samedi soir et qui vont le lendemain revenir, c'est ça, Fred?
Exact. Le petit retour, la restitution de la marmaille, c'est le dimanche avec les tontons, avec les tatas, les mamies, les papis. Bref, l'esprit familial pour restituer ses enfants et puis reprendre un lundi normal avec toute sa tribu.
Et la programmation à découvrir sur les flyers, aussi sur Facebook, me semble-t-il.
www.duroquetdesvaches.com, la page du Rock et des Vaches, les profils Rock&Co Asso, DRDV, Instagram, enfin tout ça, je maîtrise pas des masses.
Mais... Et dans le lien du podcast, Bruno, en 10 secondes.
Vite fait, on a des points de vente aussi sur Andard et Brun, à l'Escale, au bar L'Escale, et à deux pas des lots, une épicerie, ouais, et sur Angers, à CDBD.
Parfait. Mmh. Merci beaucoup, Bruno et Fred.
Merci.
On se dit à l'année prochaine.
Merci
et puis nous, on se dit à demain. Prenez soin de vous. Topette.